Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Une enquête ouverte pour agression sexuelle après les révélations d'Adèle Haenel, l'actrice dans Liberté ou des combattants accusent son premier réalisateur, Christophe Ruggia, des attouchements, du harcèlement sexuel alors qu'elle avait moins de 15 ans. L'intéressé nie, il demande pardon. La comédienne estime que la justice ignore les victimes. Des quotas, des carences et une protection maladie réduite de 6 mois pour les sans-papiers, les grandes lignes du plan immigration du gouvernement qui fait tiquer dans la majorité et dont vous parlerez au téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, les fameux quotas, les quotas d'immigration fixés par qui, pour quelle demande, est-ce que c'est la bonne réponse? On parlera aussi de l'aide médicale d'État, des 3 mois de carence sur la protection universelle maladie et ça se passe au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure. Au sommaire également ce soir, 58 suicides dans l'éducation nationale sur l'année scolaire 2018-2019, 11 depuis la rentrée de septembre, 2 défaites pour les Républicains à 1 an de la présidentielle américaine. Nous serons à Washington. Et puis la vie du ténor Pavarotti dans un documentaire.
France Inter.
Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à la justice à cause de la violence faite aux femmes dans le système judiciaire. Eh bien, le parquet de Paris se saisit donc des accusations d'Adèle Haenel, l'actrice qui raconte les attouchements, le harcèlement sexuel permanent dont elle a été victime de 12 à 15 ans de la part du réalisateur Christophe Ruggia avec lequel elle a tourné son premier film, Les Diables, sorti en 2002. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
La garde des Sceaux lui conseillait de porter plainte ce matin sur France Inter. Le parquet de Paris ouvre finalement une enquête pour agression sexuelle.
Enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et pour harcèlement sexuel. Adèle Haenel décrit à Mediapart des attouchements répétés sur les cuisses, le torse, des baisers forcés dans le cou, souvent dans l'appartement du réalisateur.
Si la personne est soumise à des pulsions et se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec cette histoire d'amour et comment je fais ?» Il ne met pas en place un système pour m'avoir sous le nez tout le temps. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit d'un homme adulte de presque 40 ans qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille et qui essaye de la tripoter et qui ne fait pas que essayer d'ailleurs.
L'actrice va maintenant être invitée à re-raconter ses faits, cette fois aux enquêteurs comme témoin. Christophe Ruggia aussi bien sûr va être entendu, lui conteste catégoriquement ses faits. L'ouverture de cette enquête est donc même une bonne chose, à en croire son avocate Fanny Collin.
C'est la garantie pour chacune des parties de pouvoir être entendue sereinement dans un cadre judiciaire, en dehors du brouhaha médiatique et des tribunaux des réseaux sociaux qui ont, semble-t-il, déjà jugé coupable Christophe Ruggia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contexte actuel, Christophe Ruggia ne peut pas s'exprimer parce que sa voix est inaudible.
Il y a quand même toujours ce soir une inconnue de taille, savoir si les faits sont prescrits ou non, c'est très complexe. La justice doit encore se pencher sur cette question. Si ce n'est pas prescrit, il peut y avoir ouverture d'une information judiciaire, éventuellement une mise en examen. Si c'est prescrit, l'ouverture de cette enquête peut susciter d'autres témoignages ou tout simplement permettre aux différents acteurs du dossier d'être entendus et pour certains d'être soulagés d'avoir été écoutés.
Ariane Grissel, en tout cas le réalisateur, nie toute agression dans un droit de réponse à Mediapart, mais il reconnaît l'erreur d'avoir joué les Pygmalions avec les malentendus et les entraves que cette posture suscite. Il demande à la comédienne de le pardonner. Sur les réseaux sociaux, plusieurs soutiens à celle qui a obtenu le César de la meilleure actrice pour Les Combattants en 2015, de Marion Cotillard à Julie Gayet, en passant notamment par Omar Sy.
Le gouvernement durcit le ton en matière de politique migratoire.
Dans son plan de réforme en 20 mesures présenté ce matin, qui prévoit des quotas dans les secteurs professionnels tendus, en concertation avec les régions, des contrôles durcis, notamment pour l'aide médicale d'État, un délai de carence de 3 mois pour l'accès à la protection universelle maladie, l'ex-CMU, ou encore la protection maladie réduite de 12 à 6 mois pour les sans-papiers ou les déboutés du droit d'asile. Plan défendu par Édouard Philippe lui-même.
Reprendre le contrôle, c'est faire en sorte que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui, et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non. Je crois profondément à l'idée d'un juste équilibre entre les droits et les devoirs. Reprendre le contrôle, c'est lutter fermement contre tous les détournements du droit d'asile, contre l'immigration irrégulière. Notre politique migratoire, elle doit d'abord tenir compte des désordres du monde. La France n'est pas une île, parce que c'est son intérêt, parce que c'est sa vision. La France doit contribuer à réduire les déséquilibres de richesse et à bâtir les chemins de la paix et du développement. Il y a une nouvelle donne européenne. Les questions d'immigration et d'asile constituent, avec les questions liées à l'écologie, la priorité de l'action des institutions européennes dans les mois qui viennent. La réalité de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est aussi celle de mouvements migratoires secondaires important. Nous lutterons vigoureusement contre les abus concernant notre système social ou d'accès aux soins, lesquels sont très liés à ces mouvements migratoires secondaires.
Ces mesures sans ambition feront finalement augmenter l'immigration, d'après le député LR Éric Ciotti. C'est un cadeau idéologique à l'extrême droite pour le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Des réticences aussi dans les rangs de la majorité. Certains marcheurs sont notamment opposés aux 3 mois de carence pour les demandeurs d'asile avant d'accéder à la sécu de base. Et des regrets aussi du côté des associations, notamment sur l'instauration de quotas. Voici Pierre Henry, le directeur général de France Terre d'Asile, joint par Philippe Randet.
Tout le monde le sait que les quotas ne servent pas à grand-chose. Puis, sincèrement, le Parlement aura à se prononcer au mois de septembre prochain, puisqu'il y a un rendez-vous annuel autour des questions migratoires. Vous voyez déjà le débat à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. On va ouvrir des quotas aux cuisiniers, aux plongeurs, aux métiers de la propreté, alors même que nous avons 2 600 000 chômeurs et que nous avons par ailleurs plus de 150 000 réfugiés statutaires à intégrer. Moi, je crois pas. Je crois qu'en réalité, si cette mesure a été prise pour faire plaisir à la droite la plus identitaire, ben, ça va pas lui suffire. Et vous verrez que le débat se déplacera sur autre chose, et notamment sur le troc. Plus d'immigration économique contre moins de migration familiale, qui, je le rappelle, est un droit fondamental, celui de vivre en famille et qui est inscrit dans notre Constitution.
C'est donc la question des quotas qui donne lieu aux réserves les plus nombreuses, y compris au gouvernement. Nicole Belloubet a un doute sur l'efficacité de la mesure. C'était ce matin sur Inter. Elle a été recadrée, Yael Gauz, par Emmanuel Macron depuis la Chine.
Elle est effondrée. Ses collègues qui l'ont croisée à Matignon ce midi expliquent que Nicole Belloubet s'est mal fait comprendre, que l'interview avec Léa Salamé est partie de travers. Mais à la réécoute, la garde des Sceaux, ancienne élue socialiste de Toulouse, a bien du mal à faire le service après-vente des quotas.
Je n'ai jamais pensé que les quotas étaient la réponse. Ce que j'ai lu sur les pays qui ont instauré des quotas obligatoires, ça n'a jamais marché. Se donner des lignes directrices, me semble-t-il, ce n'est pas imposer des quotas obligatoires. Ce que doit rester la France, c'est un pays d'accueil.
Après Agnès Buzyn, entrée en résistance sur l'AME, finalement préservée, une autre ministre sort donc des clous, cette fois sur les quotas. Depuis Pékin, où il achève sa visite d'État, le président met les points sur les i.
J'ai fixé un cap, le gouvernement l'applique. Si on veut que la République tienne à peu près debout, le rôle du président de la République, c'est pas de commenter les commentaires ou les états d'âme. C'est d'être le chef de l'État.
Emmanuel Macron, au micro de Julie-Marie Lecomte, met des états d'âme sur le sujet. Le président aussi en a eu. Qui a dit en mars 2017 « Je ne crois pas aux politiques de quotas parce qu'on ne sait pas les faire respecter ». Le candidat Emmanuel Macron, qui se démarquait à l'époque du programme de François Fillon. Conversion récente, donc, lors de la crise des Gilets jaunes, et nouvelle incursion sur le terrain d'une droite qu'il veut asphyxier pour les municipales et pour après.
Christophe Castaner a précisé de son côté que le gouvernement ne toucherait pas au regroupement familial et que les camps de migrants au nord-est de Paris seraient évacués avant la fin de l'année. Ils abritent 1500 à 3000 exilés. Vous revenez sur ce plan d'enco téléphone sonne à 19h20, Fabienne.
Absolument, au 01 45 24 7000. Un vent nouveau chez les Républicains.
La première force d'opposition à l'Assemblée, 104 députés, désigne Damien Abad pour succéder à Christian Jacob. À leur tête, l'élu de l'Ain, 39 ans, l'emporte au deuxième tour face à son collègue d'Eure-et-Loire, Olivier Marleix. Alex, Damien Abad, Cécilia Arbona, un homme de tempérament, adepte du parler vrai.
La première qualité de Damien Abad, c'est son énergie communicative.
Mon style, c'est celui qui consiste effectivement à mettre de l'énergie, à mettre du dynamisme, de l'enthousiasme, du positif.
Diplômé de Sciences Po, président des Jeunes Centristes, il a été élu le plus jeune eurodéputé français en 2009. Pour Julien Aubert, le souverainiste du Vaucluse, Abad, c'est la victoire du juste équilibre.
On est à équidistance entre l'indépendance qui serait une mauvaise chose et la vassalité qui en serait une mauvaise. Car vous savez, les parlementaires ont toujours peur d'être inféodé.
Atteint d'une maladie rare depuis l'enfance qui bloque ses articulations et freine ses déplacements, Damien Abad refuse qu'on lui réserve un statut particulier où qu'il aille.
J'ai toujours considéré que mon handicap n'était ni un frein ni un moteur dans mon engagement politique.
Il incarne une droite sociale, populaire. Ses détracteurs le traitent de girouette de première. Il a soutenu tour à tour Bruno Le Maire, François Fillon, puis Laurent Wauquiez. L'intéressé rappelle qu'il a pris un gros risque personnel en postulant.
En renonçant à toute fonction au sein du du parti pour justement montrer aux députés ma détermination, ma volonté. Et je pense qu'on a gagné sur l'envie.
Damien Abad a atteint son objectif, lui qui depuis tout petit affectionne les podiums et les médailles en tennis de table et en politique.
Damien Abad qui sera l'invité du grand entretien d'Inter demain à 8h20. Renaud Muselier est élu de son côté président des régions de Région de France. Le président LR de PACA remplace Hervé Morin. La liste de ceux qui n'iront pas s'allonge à la marche contre l'islamophobie dimanche à Paris. L'écologiste Yannick Jadot, l'insoumis François Ruffin, le patron des communistes Fabien Roussel, le PS aussi. Ils ne valident pas l'ensemble de l'appel à manifester qui parle notamment de lois liberticides et l'identité de ceux qui sont à l'origine jugés trop proches des frères musulmans. Un rassemblement de directeurs d'écoles primaires aujourd'hui devant le ministère de l'Éducation nationale à l'occasion d'un comité d'hygiène et de sécurité. Un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice à Pantin, le ministère qui donne le chiffre de 58 suicides, Alexis Morel, dans ses rangs sur l'année scolaire 2018-2019.
58 suicides connus de l'administration sur 1 million d'agents de l'éducation nationale pour 2018-2019. 37 hommes, 21 femmes, une majorité d'enseignants, mais aussi des personnels de direction ou encore des conseillers principaux d'éducation. Ce sont les tranches d'âge 45-54 ans et 55-64 ans qui sont les plus exposés. Enfin, depuis la dernière rentrée de septembre 2019, 11 suicides ont déjà été enregistrés en 2 mois donc. En rendant ces chiffres publics pour la première fois, le ministre de l'Éducation répond à une demande des syndicats, notamment depuis l'électrochoc provoqué par la mort de Christine Renon en septembre. Mais ces données sont très difficiles à interpréter sans comparaison possible d'une année à l'autre et parce que certaines situations peuvent échapper à l'administration. En se basant sur les chiffres disponibles ce soir, le taux de suicide dans l'éducation nationale est donc de 5,8 pour 100 000 agents selon le ministère. Pour la population générale, il était en 2012 de 16 pour 100 000 habitants.
Un violent incendie en ce moment dans un immeuble de Brest, un bâtiment d'habitation de 13 étages du quartier de Quéliversan. Le feu a pris au 8e étage. Une cinquantaine de pompiers sont sur place. Il y a au moins un mort, le locataire de l'appartement d'où les flammes sont parties. Les transports en commun devraient circuler normalement dès demain matin à Nantes, mais il n'y avait ni bus ni tramway. Aujourd'hui, la direction des transports en commun de l'agglomération nantaise a demandé aux conducteurs de rentrer au dépôt après l'agression de l'un de leurs collègues hier soir, frappé au visage par plusieurs passagers qui n'ont pas apprécié un arrêt prolongé à la station Trocardière. Un colis suspect avait été découvert.
Il est 19h presque 13 sur France Inter. Sébastien, l'élection présidentielle, c'est dans un an aux États-Unis.
Mais des élections locales avaient lieu dans plusieurs États. Hier, victoire républicaine dans le Mississippi, mais deux revers importants pour le camp Trump. Le premier dans le Kentucky, où c'est un démocrate qui décroche le poste de gouverneur, d'après les résultats encore provisoires. Et puis en Virginie, où les deux chambres passent à gauche et où une mère de famille est élue à un poste local. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Une femme de 52 ans qui avait fait la une des médias chez vous il y a 2 ans. Elle avait fait un doigt d'honneur au président des États-Unis.
Oui, la scène est connue, ça se passe le 28 octobre 2017. Julie Briskman est à vélo sur une petite route de cet état de Virginie quand elle se fait doubler par le convoi automobile de Donald Trump et dans un geste réflexe, dira-t-elle plus tard, la cycliste adresse un doigt d'honneur au convoi présidentiel. Un photographe de l'AFP saisit la scène, l'image fait quasi immédiatement le tour des réseaux sociaux et la une de la presse américaine. Et 10 jours plus tard, eh bien Briskman est licenciée par son employeur, une entreprise sous-traitante du gouvernement américain. Alors aujourd'hui, cet ex-analyste prend donc sa revanche en remportant sous l'étiquette démocrate un siège dans ce comté où précisément se trouve un golf qui appartient à Donald Trump. Au-delà de l'anecdote, Sébastien, c'est toute la Virginie qui est désormais dominée par les démocrates. Hier, ils ont remporté le Sénat local, la Chambre des délégués. Le gouverneur Ralph Northam est aussi un opposant à Donald Trump. La Virginie est un voisin de Washington, du district de Columbia, qui vire donc du rouge au bleu. Cette situation est inédite depuis 1990.
Grégory Phillips en direct de Washington, où l'on apprend ce soir également, Grégory, que les premières auditions publiques au Congrès pour la destitution du président américain auront lieu dans une semaine, le 13 novembre. La campagne pour les élections anticipées du 12 décembre est officiellement lancée au Royaume-Uni. Boris Johnson est allé voir la reine pour pouvoir annoncer la dissolution du Parlement, puis le prochain scrutin. Il tient ce soir un premier meeting du Parti conservateur où il devrait de nouveau promettre un Brexit pour les prochaines semaines, le 31 janvier au plus tard, ultimatum fixé décidée par Bruxelles. En attendant, petite pique à son rival travailliste Jeremy Corbyn tout à l'heure, comparé à Staline. Le sport et le football, avec d'abord celui qui veut y revenir dans le ballon rond, Michel Platini, dont la suspension par la FIFA a pris fin il y a un mois. Alors l'ancien numéro 10 et patron de l'UEFA cherche un nouveau boulot dans le milieu qui a beaucoup changé en 4 ans. L'argent notamment a pris encore plus de place et la possibilité d'acheter des joueurs étrangers choque l'ancien numéro 10, exemple à l'appui.
Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est basé sur la richesse. En revanche, avant, quand vous aviez 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs étrangers, c'était plus facile. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, par exemple, est un exemple bien précis. Le président est qatari, le directeur est brésilien, l'entraîneur est allemand, il y a un Français dans l'équipe. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a 40 000 personnes, il y a une grande population qui aime son club, d'accord. Mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Je veux dire, pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain?
Voilà, Michel Platini avec Marc Fauvel et Renaud Delis ce matin sur France Info. Alors que le PSG, justement, joue en Ligue des Champions ce soir pour le compte de la 4e journée. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Les Parisiens reçoivent les Belges de Bruges, Guillaume. Ils sont à un cheveu des 8e.
Oui, parce que cette année, le parcours du PSG en Ligue des Champions est parfait. 3 victoires en 3 matchs, 9 buts marqués, 0 encaissés. Une leçon de football donnée au Real de Zidane. Un Kylian Mbappé triplement génial au match aller à Bruges il y a 15 jours. Et une victoire dans l'enfer de Galatasaray en Turquie. Malgré la défaite il y a 5 jours face à Dijon, le dernier de la Ligue 1, c'est une équipe appliquée, concentrée, disciplinée qui va se présenter ce soir au Parc des Princes. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel a longuement échangé avec ses joueurs, histoire de les remotiver. Tuchel qui n'a d'ailleurs laissé aucun doute sur son avenir parisien après les sollicitations insistantes du Bayern Munich, le club allemand qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Les blessures de Thilo Kehrer, de Thomas Meunier, de Neymar n'y changeront rien. Le Brésilien va manquer un 63e match depuis son arrivée en 2017. Le Paris Saint-Germain entend bien décrocher dès ce soir sa 8e qualification consécutive pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.
Guillaume Batin en direct du Parc des Princes, on suivra ça avec vous. Catherine Deneuve hospitalisée à Paris, la comédienne a fait un mal la nuit dernière, victime d'un accident vasculaire très limité et donc réversible d'après sa famille, qui assure que l'actrice de 76 ans doit prendre du repos mais qu'elle n'a aucun déficit moteur. Deneuve tourne en ce moment le prochain film d'Emmanuel Berco avec Cécile de France et Benoît Magimel, film dont le titre est « De son vivant ». C'est sûrement bon signe. On termine avec la vie du ténor Pavarotti sur grand écran au cinéma cette semaine, derrière la caméra de l'américain Ron Howard. Pavarotti, mort en 2007, grande voix de l'opéra de la moitié du XXe siècle. Celui qui a popularisé Stéphane Capron, la musique classique.
Tout petit, à Modène, Luciano baigne dans la musique. Son père ténor est son premier professeur. Très vite, on décèle son immense talent, comme ici au Met en 72. Il entre au panthéon des ténors en enchaînant les 9 contrutes de la fille du régiment. Pavarotti devient le Caruso de son époque. L'un des tournants de sa carrière sera sa rencontre avec Lady Diana. Il se lance dans des concerts de charité le 31 juillet 91 à Hyde Park à Londres, sous une pluie battante, il lui dédicace l'air de Manon Lescaut.
I have never seen a woman like that, and with your permission, I would like to dedicate to Lady Diana.
Pavarotti chante avec Clapton, Elton John, Stevie Wonder. En 92, il s'engage politiquement en faveur de la Bosnie. Bono lui écrit « Miss Sarajevo », un titre qu'ils chanteront lors de concerts caritatifs. Un pied dans la pop, un pied dans le bel canto, Pavarotti avait le sens du marketing. Le documentaire de Ron Howard l'explique très bien. Il aimait les concerts-événements, comme avec José Carreras et Placido Domingo dans la tournée mondiale des 3 ténors.
Un extrait du concert des 3 ténors, Turandot de Puccini, enregistré à Rome donc en 90. C'est sur le documentaire de Ron Howard de Pavarotti, enfin de Ron Howard sur Pavarotti, vous m'avez compris. C'est dans 150 salles de France cette semaine. Il y a aussi la bande originale du film qui est disponible et puis une réédition d'un coffret du meilleur du ténor.
Et ben comme ça, on a tout.
On a tout.
On est hyper bien paré. Merci beaucoup Sébastien. Allez chanter, à demain. Nous, on reste ensemble. Dans un instant, c'est le téléphone sonne et merci de passer la soirée avec nous. Un œil par la fenêtre.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, de la pluie et du vent et tout ça dès cette nuit.
Oui, on va chanter sous la pluie cette nuit. Super. La nuit s'annonce bien perturbée et pluvieuse sur toute la moitié ouest du pays, avec notamment de fortes rafales de vent pouvant dépasser 90 voire 100 km par heure sur la façade atlantique et le littoral de la Manche. Ces conditions agitées sont liées au passage d'une perturbation qui va balayer le pays. Cette perturbation gagnera les régions de l'Est demain matin, traînant également sur les Hauts-de-France et le long des Pyrénées. Au passage, les pluies seront parfois soutenues et quelques orages seront même possibles. On attend aussi de la neige en moyenne montagne. Demain après-midi, le Languedoc-Roussillon, les Alpes du Nord et la Provence-Alpes-Côte d'Azur seront encore concernés par un temps gris et humide. Sur la moitié nord, le soleil et les éclaircies seront de retour après la pluie. Mais sur les côtes ouest et en Nouvelle-Aquitaine, le temps sera encore instable avec de nombreuses averses.
Et il fait de plus en plus frais.
Oui, petite fraîcheur matinale au lever du jour avec notamment 2 degrés seulement à Grenoble et 3 degrés à Mulhouse. Et l'ambiance va aussi se rafraîchir demain après-midi. 10 degrés pour Valenciennes et Épinal, 11 degrés à Troyes, à Paris, à Saint-Malo, Poitiers, Dijon, Montauban ou encore Saint-Étienne, 13 degrés à Arcachon et Orange, 15 degrés pour Béziers et Marseille, 17 degrés à Cannes et tout de même 19 degrés à Calvi.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.